Dans cette release de CPU, qu'est-ce qu'un nom de domaine ? Pourquoi le site de l'émission s'appelle cpu.pm ? Une multinationale à Carcassonne ? Sexe et dot-com font scandale ? L'équipe aujourd'hui, Solarus et Daskrich, notre interviewé Anthony Eden, fondateur de DNS Simple, et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux ? Ouais ? Alors ok, c'est parti. Bonjour Solarus.
Salut.
Bonjour, et moi c'est Daskrich, et bonjour à toi enfant du futur immédiat. Toi qui nous écouteras parce que t'as trouvé notre programme d'une manière quelconque. La première chose qu'un enfant apprend à faire, et la première chose avec laquelle on note son intelligence, c'est de nommer les choses, et ainsi fut le verbe « EPA papa ». Dans les protocoles réseau Internet, les machines discutent entre elles en s'appelant par les adresses chiffrées, qu'on appelle une adresse IP. Celles-ci ne sont pas forcément faciles à gérer pour les humains. D'ailleurs, maintenant que nos téléphones sont tous un carnet d'adresses intégré, je doute que vous connaissez plus d'une dizaine de numéros de téléphone de vos proches, voire même moins de la demi-douzaine pour la plupart d'entre nous. C'est un peu gênant en cas d'accident quand on a le téléphone cassé, d'ailleurs. Pour accéder à un site Internet, on peut le faire à partir de son adresse numérique, mais c'est nettement moins évident. Il y a des cas qu'on retrouve facilement, par exemple une page web grâce à un moteur de recherche, comme on en a parlé il y a 15 jours, mais pour un serveur non indexé, pour une adresse email, et que sais-je encore, n'avoir qu'une adresse numérique est tout sauf pratique. Heureusement, il est possible de donner un nom d'alias à votre ordinateur et donc indiquer que le site cpu.pm pointe vers l'adresse IPv4 89 234 156 173 ou en IPv6 2A01.6600.8083.AD00.2.1. On répète 2.2 à la fin parce que c'est un alias et c'est rempli de 0, donc c'est un peu compliqué. Cela peut se faire en éditant le fichier host, en général dans le répertoire ECT de votre ordinateur. Et d'ailleurs, à la racine, pardon, slash ECT. Et d'ailleurs, c'était plus ou moins comme ça que faisaient les gros centres informatiques reliés aux origines d'Internet dans les années 70 et 80, avec les responsables systèmes qui s'envoyaient par email les modifications d'adresse IP et leur nom. Mais comme c'était pas pratique à maintenir, surtout une fois passé de 10 machines à quelques centaines en 84, les responsables décidèrent de créer un annuaire commun, le système de nom de domaine, ou Domain Name System. Oui, je m'entraîne déjà pour l'émission la semaine prochaine dans le sujet et l'anglish au travail. Avec une convention de nommage allant de la droite vers la gauche. Tout à droite, vous avez le TLD ou Top Level Domain ou encore Domaine de premier niveau. Les sites TLD génériques qui furent d'abord créés permettaient de catégoriser et donc de comprendre à qui on s'adresse. En .com à une entreprise, en .edu à une université, en .org pour une organisation à but non lucratif, en .net à un prestataire technique d'Internet, en .gov pour un ministère ou tout autre organisme du gouvernement fédéral américain, en .mil à un ordinateur du Pentagone, classement totalement à part rien que pour faire plaisir aux illuminés des théories du complot. De ces 6 TLD, on commença par la suite à créer des TLD en 2 lettres ou CCTLD rattachés à des pays. Le code est lié à une nomenclature déjà existante, la ISO 3166-1, et vous connaissez le .fr qui est celui de Cocorico, la France. Il y a le .uk pour le Royaume-Uni, le .de pour l'Allemagne, sauf que tout le monde a oublié qu'il existe un .us pour les États-Unis, sans compter les pays qui ont disparu de nos jours, comme le .su pour l'URSS, que l'on peut encore demander, ou le .cs pour la Tchécoslovaquie. Je vous expliquerai, on avait une géographie très très compliquée dans les années 80. pour ceux qui sont revenus de l'émission de la semaine dernière. Sauf que pour tout le monde, sauf que avant le TLD, vous aviez le qualificatif de nom de domaine, donc par exemple radio-fmr. C'est en général le nom de la marque d'une entreprise. Le qualificatif est un TLD, donc radio-fmr plus net, avec un point, c'est un symbole plus, hein, voilà, c'est un multiplié, bon, c'est un point, forme un nom de domaine. radio-fmr.net, c'est le nom de domaine de la radio. Et c'est pour l'obtenir que l'on loue à l'année. Et en dessous, on peut mettre des sous-domaines, comme par exemple www, pour www.radio-fmr.net, ou encore admin, ou encore pc-2-dascritch. Mais ces sous-domaines sont quasi gratuits. Je peux en créer autant que je veux, adossé à mon nom de domaine. Leur création relève de la, responsabilité de celui qui a alloué le nom de domaine et à son entière discrétion. En fait, ces registres DNS sont les derniers éléments réellement centralisés d'Internet. Et l'enregistrement d'un nom de domaine se fait en s'adressant directement au nom à une entreprise gestionnaire du TLD voulu. Et la règle d'obtention est la plupart du temps très simple. Si le nom est disponible et que tu paies, premier arrivé, premier servi. Alors évidemment, la question de la légitimité d'un nom de domaine peut très vite être posée. Prenons lotus.com. Alors, d'après vous, laquelle de ces entreprises pourrait y avoir plus le droit que les autres à utiliser ce nom de domaine ? S'agit-il de l'éditeur de la suite logicielle d'entreprise, Lotus 1-2-3 et Lotus Notes ? Est-ce que c'est le constructeur britannique de voitures de course que vous pouvez vous payer si vous avez été revendeur de la suite logicielle précédemment nommée à quelques administrations ? Ou le fabricant de papier toilette ultra doux que vous ne manquerez pas d'utiliser la première fois que vous aurez eu à faire un freinage d'urgence avec votre voiture de course homonyme ? Allez, je tue le suspense. Actuellement, c'est IBM qui l'a, ayant racheté l'éditeur logiciel. Afin d'organiser la gestion de ce business est créé en 1998 l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui régule à la fois les règles de ce business, distribue les TLD entre registrars et maintient les serveurs DNS racines qui sont à la base des annuaires Internet. À partir de la fin des années 90, eurent lieu des réservations de noms de domaine dits en or, parce qu'ils représentaient ceux d'une marque, d'un mot commun ou d'un verbe en anglais, d'une ville ou d'un nom de famille plutôt courant. La plupart de ces noms de domaine aboutissent nulle part, ou plutôt presque nulle part en fait. Un site web était placé derrière une simple page web qui disait que le nom de domaine est disponible à la vente à un prix d'achat singulier. Bon alors, singulier parce que le nombre n'a pas qu'un chiffre, mais plusieurs. Parfois, les possesseurs de certains noms se demandent plusieurs centaines de milliers d'euros, et que tant que personne n'est prêt à débourser un tel chiffre, eh ben, ils continuent à louer leur nom pour une dizaine de dollars annuels. Bien évidemment, il y a eu des abus, que l'on appelle cybersquatting, l'art non pas de faire de la trottinette en tenue de Robocop, mais bien et bien de revendiquer un nom connu sans en avoir dessus le moindre droit, et d'en exiger une somme escrocatoire assez importante. L'ICANN a créé une procédure de résolution en 1999 qui s'appelle le UDRP, ou Uniform Dispute Resolution Policy. Pour l'Europe, ces conflits se résolvent devant l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Seulement, si vous êtes dépositaire d'une marque internationale, il faut néanmoins la protéger le plus possible. Donc, déposer le plus possible les noms de domaine dans le plus de TLD possible. Or, il y a depuis une dizaine d'années une inflation délirante du nombre de top level domaines, avec parfois des imitations ubuesques, comme pour le .mobi, mais plus souvent à des tarifs complètement démentiels. Et ça, je suis retombé dedans en voulant déposer un nom de domaine pour l'émission qui redirige vers mon site web, mais qui soit facile à prononcer à la radio, à retenir dans la tête et à écrire sur un téléphone portable. Bon, il est vrai que les noms en trois lettres, en .com, en .net, en .org, sont déjà tous occupés depuis la fin du précédent millénaire. Mais soyons fous, j'ai quand même testé. Sauf qu'en faisant mon shopping chez le registraire Gandhi, j'ai eu des propositions plutôt délirantes, genre cpu.space pour 423,32€ par an. Inutile de dire qu'on obtient vite des prix stratosphériques sans réelle justification. De la liste qui m'a été proposée, j'ai pris les 5 plus chers. Or, qui dit classement dit top, et qui dit 5 dit...
Top 5. Numéro 5.
CPU Market m'a été proposé pour, et toujours d'ailleurs disponible à la location, pour 1353,35€ par an, soit à peu près le tarif qui est proposé dans le centre-ville de notre chère ville.
Numéro 4.
CPU.bagua en deux sinogrammes, oui parce que ça veut dire gossip en chinois, voilà, qui m'est proposé pour 1579,36€, soit à peu près le prix d'un placard à balai dans la banlieue de Paris.
Numéro 3.
CPU.website pour 1670,7€ par an, soit à peu près le tarif, je vais dire, d'une boîte aux lettres sur l'avenue des Champs-Élysées.
Numéro 2.
CPU.online, CPU.site, CPU.review, CPU.software m'ont été proposés pour chacun 3816,18€ par an. On atteint les prix de Londres, là. Et vous allez me dire qui fait les prix quand même de New York en location.
Numéro 1.
CPU.tech m'a été proposé pour 11 347,64€ par an. Classement non exhaustif effectué en fonction des noms de domaines disponibles et des tarifs proposés par Gandhi.net cette semaine, hors promotion et rabais pour achat en lot. Alors, à noter quand même que ce qui est amusant, c'est que tous ces tarifs-là, tous, sans exception, on tombe en dessous de 10€ par an si je mets trois autres lettres. Zlo, par exemple, ou Zbe. Alors, savoir, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a posé la question à Gandhi pour une raison absolument stupide, c'est qu'il n'existe aucune référence sur ce qui fait le prix de ces sites, que certains noms soient beaucoup plus chers que d'autres, alors qu'ils ne sont pas encore réservés, donc a priori qu'ils ne sont pas d'opportunités par des particuliers ou des entreprises mis sur une page de parking. Et voici donc la réponse officielle. Donc, de Gandhi, je remercie énormément d'ailleurs les équipes juridiques et la chargée de com de Gandhi. Donc, leur courrier, depuis, et je vous le lis, depuis un peu plus d'un an, 600 nouvelles extensions de noms de domaine sont venues s'ajouter aux extensions existantes, et il est courant de constater depuis des différences de prix substantielles sur une même extension. L'enregistrement de zlu.tech, par exemple, serait facturé au tarif standard de 50€ par an, tandis que le domaine cpu.tech se retrouve propulsé à plus de 11 000€. En cause, l'utilisation par les registres de mécanismes dits premium, à savoir l'application à un tarif plus élevé, et une liste de noms de domaine ayant la particularité d'être particulièrement mémorisable, souvent très générique et par conséquent très intéressant en termes de référencement naturel. Qu'ils soient génériques ou qu'ils visent un secteur niche, ces registres établissent leur liste de noms premium parmi ceux qui semblent les plus bankable et en fixent les tarifs de manière discrétionnaire, le bureau d'enregistrement, registrar, en l'occurrence, n'ayant d'autre choix que d'appliquer lorsqu'un client souhaitera l'enregistrer, à moins qu'il préfère ne pas le commercialiser. Chaque liste de noms premium est spécifique à chaque nouvelle extension, tout comme la politique tarifaire appliquée. Ainsi, le nom de domaine cpu.tech est-il considéré comme un premium, mais pas les noms de domaine cpu.photo, au pluriel, ou cpu.imo, qui sont commercialisés à un tarif annuel standard, leur attractivité publicitaire étant moindre. Je remercie énormément là-dessus, d'ailleurs, Gandhi, pour cet éclaircissement.
C'est la loi de l'offre et la demande sans la demande.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à signaler que, vu que iTélé va changer de nom, je leur propose le nom lol.news, qui est actuellement disponible chez le registrar pour 46 788€ par an. Mais à ce prix-là, ils n'auraient même plus le prix pour se payer, je vais dire, une matinale. Évidemment, inutile de vous dire que quand j'ai dû choisir le nom de domaine de l'émission, je me suis attardé sur le moins cher, le plus logique et le plus facile à écrire avec un téléphone portable. C'est pour ça que le programme CPU a comme site web raccourci cpu.pm, nom que j'ai donc déposé pour 12€ annuels, hein, quand même, j'ai pété le score. Le .pm étant le CCTLD de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bravo, je vois qu'on connaissait Dom Tom et que j'ai le droit d'utiliser en tant que citoyen français sans plus de démarches administratives. Oui, puisque certains TLD font une démarche administrative. Par exemple, en point Alsace, il faut prouver que l'on vive en Alsace. Mais je le renvoie sur un sous-domaine au cas où. Principe de précaution, j'ai un nom de domaine qui est là depuis 15 ans, on ne sait jamais. Enfin, du futur immédiat, le système de nom de domaine est le dernier service centralisé d'Internet et il est très pratique. La preuve, C'est que vous écoutez CPU alors qu'on n'enregistre pas du tout dans le même lieu que d'habitude. Il ne repose que sur la location d'adresses, mais il a ses vices. Il est devenu un business très lucratif et l'explosion de nombre de TLD génériques démontre que nous sommes clairement dans une bulle spéculative latente. Il est probable qu'un jour, cette bulle éclate, des noms de domaines ne résolvant, alors dans ce cas-là, plus rien. Je lance une commande très connue là. Les who ? Ah bah oui, forcément, parce qu'il faut un who is derrière.
Who are you ?
Voilà, que j'ai du coup abrégé à deux. Voilà, puisque évidemment, beaucoup de choses à dire. Mais l'avocat de la défense, Maître Solarus, expliquera beaucoup mieux que moi que le client est coupable, bien évidemment. Non, je ne sais plus faire du déproche. La pro, c'est pas pour moi. Vous écoutez CPU sur Radio FMR. Et donc, on parle du système de nom de domaine sur Internet.
Oui, on va rentrer un peu plus dans le détail technique. Et si vous ne nous écoutez pas à travers la modulation de fréquence analogique, c'est que vous nous écoutez grâce à Internet. Internet fonctionne grâce à des adresses IP, une suite de chiffres et de lettres relativement aléatoires. Si je vous dis 206.125.164.82, ou si je vous dis 2607.2.fc10.1.400.2.82, ça ne vous dira rien. Alors que ce sont les adresses IP du site sexe.com. Là, ça vous parle plus.
T'as lu mon conducteur. C'est sympa, merci.
Non, transmission de pensée. Donc elysée.fr, facebook.com, cpu.nastrich.net, tout ça sont des noms de domaine utilisant des serveurs de noms. Cela peut vous sembler évident quand vous pianotez sur votre clavier et automatiquement, celui-ci vous trouve le site recherché. Mais posons-nous la question de savoir comment l'ordinateur fait. Vous voulez consulter google.com. Par où commencer ? Où se trouve l'adresse IP de Monsieur Google ? Dans quelle ville ? Dans quel appartement ? Bref, dans quel bottin ? Cherchez Monsieur Google, Mountain View, Californie. Tout d'abord, vous allez contacter un serveur racine. La racine DNS est un ensemble de milliers de serveurs répartis à travers le monde. Si vous avez lu quelque part que les USA contrôlent Internet et le système de nom, grande nouvelle, c'est majoritairement faux. Dans cette racine, vous allez vérifier le TLD, le Top Layer Domain, ou domaine de premier niveau, .com, .net ou .fr. C'est ce que nous appelons souvent à tort l'extension du nom de domaine.
De la lutte.
Ces noms de domaine de premier niveau, ce domaine de premier niveau va vous indiquer les serveurs faisant autorité pour la zone. Pour détailler un petit peu les serveurs racines, ils sont rassemblés en 13 groupes, dénommés de A à M, et gérés chacun par une société ou un organisme différent. Les serveurs A sont opérés par VeriSign, une société américaine. Les serveurs E sont opérés par la NASA. Oui, la NASA de l'espace, pas la NSA des espions. Les serveurs K sont opérés par le RIP, les réseaux IP européens, et ainsi de suite. Donc, grâce à ces serveurs racines, on trouve les serveurs d'autorité d'une zone, donc google.com, facebook.com, etc. Ces serveurs contiennent tous les enregistrements de noms pour une zone donnée. Par exemple, pour google.com, vous contacterez le serveur ns2.google.com pour lui demander quelle est l'adresse IPv6 ou IPv4 du serveur drive.google.com pour aller chercher les documents que vous avez stockés chez Google. Ainsi, le système global des DNS est géré globalement. Je viens de faire un pléonasme.
Bravo.
Mais les TLD, eux, sont gérés par des entreprises dont le droit dépend de leur pays d'établissement. Ainsi, le .com dépend des États-Unis, car géré par VeriSign. .fr est géré par l'AFNIC, une association de loi 1901 en France. Et le .eu est géré en Europe, oui, mais plus particulièrement en Belgique. Ainsi, ce caractère national des TLD a eu des implications légales, l'exemple le plus célèbre étant The Pirate Bay. Les États-Unis, en chasse contre Pirate Bay, ont convaincu les gestionnaires de TLD, les uns après les autres, de virer Pirate Bay de chez eux. .org, .net, puis ensuite .se, .gr, en passant par des îles comme les Caraïbes, des îles des Caraïbes comme Saint-Martin, les pirates du net ont livré une course digne des plus grands flibustiers d'antan.
La suite.
Les DNS sont un système arborescent et très difficile à trafiquer ou à mettre en panne, et non pas centralisé.
Merci, je me suis planté.
C'est ainsi qu'au fil du temps, le DNS a intégré des fonctions liées à la sécurité informatique, notamment la gestion des signatures cryptographiques regroupées sous l'acronyme DANE, D-A-N-E. DANE met notamment en œuvre DNSSEC, qui, grâce à la signature cryptographique des noms de domaine, permet de garantir que vous visitez bien le site demandé et non une usurpation.
C'est pas un chiffrement, hein, c'est juste une signature.
C'est une, voilà, c'est, voilà. De la cryptographie.
Quand on parle de cryptographie, c'est la signature, c'est s'assurer que c'est vous, comme le code que vous mettez sur votre carte bleue.
Voilà. Le chiffrement, vous le connaissez, c'est HTTPS. Donc, DANE met notamment en œuvre. Le DNS porte aujourd'hui les sécurités TLSA et SPF. TLSA est un système permettant de vérifier les certificats TLS, ceux que vous utilisez quand vous faites du HTTPS, pour chiffrer justement. Mmh. Ainsi, plus besoin de faire confiance aux autorités de certification pour valider un site en HTTPS, le site lui-même vous dira quel est le bon certificat, et cela limitera le nombre d'alertes affichées par votre navigateur. Mais si, vous savez, ces alertes de sécurité HTTPS qui sont très importantes, mais qu'on vous a appris à ignorer et que vous ignorez de toute façon. Le système SPF permet quant à lui de limiter l'envoi de spam. Il permet de vérifier que le mail envoyé au nom de impots.gouv.fr est bien envoyé par les impôts et non par un spammeur ou un pirate. Bien sûr, SPF ne permet pas d'éviter tout le spam. Beaucoup de spammeurs ont des serveurs d'envoi avec des paramètres SPF corrects. Le SPF ne permet pas non plus de protéger contre toutes les formes d'usurpation, notamment les noms de domaine mal orthographiés, comme par exemple impots.gouv.fr qui aurait un symbole russe bizarre à la place du i. Tout autant de techniques qui, pour vous, fonctionnent naturellement. Mais le système DNS, qui à la base est un simple serveur de nom, est devenu aujourd'hui la pierre angulaire du net et du web que nous connaissons. Si le web est aussi simple, c'est en grande partie grâce à lui. Pilier de l'identité de la sécurité, arborescent, coopératif et supranational, le DNS incarne parfaitement ce que doit porter le net en termes de valeur.
I'm a creation of your musical progress of technology. The ancient net world is gone. You say it's gone. Shit.
Icom.com par Miss Kitten and the Hacker, extrait de l'album Icom, sorti en 2004. Le métier de registreur consiste à fournir un service de location et de gestion basique de noms de domaine. On peut se démarquer par l'ancienneté ou suivre soit par des valeurs revendiquées, soit par l'intégration avec des services par exemple d'hébergement, soit par des services associés. Bon, on va prendre par exemple l'un des plus connus internationalement. One and One est un service assez ancien, c'était l'un des tout premiers, mais décrié par son service client assez catastrophique. Gandhi a pris pour slogan No Bullshit, justement pour s'en démarquer, et revendique une certaine éthique et une facilité d'usage des services associés. OVH profite d'être le plus gros provider de services d'hébergement européen pour proposer à côté la gestion de nom de domaine, qui est forcément complémentaire. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer le patron d'une autre catégorie d'opérateurs de nom de domaine, DNS Simple, qui n'a pas de locaux d'entreprise dédiés, mais il met en avant sa présence à toute heure de la journée et des outils simplifiés pour les administrateurs système et des fonctions très avancées sur la gestion de DNS. Mais plutôt que mettre en avant leur discours commercial, on s'est posé la question du business de DNS et le fait de travailler sans locaux dédiés à quelques kilomètres de Carcassonne pour le patron. Un cadre qui change des, par exemple, luxueux et cosy bureaux de Gandhi.net, mais qui, hélas, hors du superbe bar à fruits de l'accueil, ben, point de salut dans les alentours, car en bord du 13e arrondissement de Paris, le seul lieu convivial est un bar PMU à 150 mètres qui vous annonce d'entrée que votre commande doit être renouvelée tous les quarts d'heure, et tenu par des Chinois très commerciaux d'ailleurs. Bon, pareil que la team Buff Loclag se régale dans le quartier. Pour ceux d'OVH, je n'ai point d'autre avis que leurs voisins de Roubaix, car il paraît que régulièrement les salariés d'Ankama traversent le Quiévrain, histoire de se fournir en bière, comme nous, les Toulousains, allons nous fournir en clopes et alcool fort dans... Ah oui, pardon, pas de marque. Une principauté extra-communautaire, 6 dans les Pyrénées et au CCTLD en .AD. Ainsi, alors... Qu'est-ce qu'un business de délocaliser dans la cambrousse française avec des collaborateurs répartis à travers la planète et qui bossent de chez eux? Est-ce qu'ils peuvent assurer un service professionnel de qualité et surtout international? Pour en parler, notre interviewé est Anthony Eden, qui est fondateur et dirigeant de DNSSimple.net, codeur en Erlang Ruby et Go, ex-présentateur du podcast Strong Businesses Podcast, expatrié américain en France, tiens, encore un, et compte d'opérette, ça fait tellement mieux sur sa bio Twitter. L'interview a été réalisée par moi-même, Eugène Lowe et Myriam Chav, lors de la deuxième FailCon qui a eu lieu en juin dernier, organisée par Equito.
Anthony Eden, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait qu'un Américain décide d'aller s'enterrer au fin fond de Carcassonne pour monter une entreprise ?
Wow, ça c'est une question difficile. La première chose, c'est que ma femme, elle est française. Donc... Je ne suis pas comme les autres qui viennent en France juste pour vivre. Moi, j'ai une raison d'être là, c'est d'être avec elle et avec mes enfants qui sont à l'école. Mais en fait, la compagnie, ça reste aux États-Unis. On est complètement remote, donc tout le monde travaille n'importe où. Et donc, moi, je travaille ici. J'ai l'équipe en Italie, en Espagne et aux États-Unis.
Donc, avant même de travailler en France, tu travailles sur Internet?
C'est ça, oui, on est complètement sur l'Internet. Donc, c'est une compagnie totale Internet.
Tu peux nous présenter DNS Simple?
Oui, c'est un problème. Donc, la question, c'est DNS Simple, c'est un service de DNS et les noms de domaine. En fait, donc, si vous voulez acheter un nom de domaine, mycompany.fr, vous pouvez acheter chez nous. Donc, c'est ça, en fait. Et on est vraiment fait exprès pour les développeurs et les autres entrepreneurs. Donc, on a fait un site que moi, je veux bien utiliser. Donc, c'est les gens comme moi qui sont des développeurs qui aiment bien notre site.
C'est vrai que jusque-là, donc, le système de DNS, c'est le dernier point réellement centralisé sur Internet. Et ce que l'on achète, en fait, c'est plus de la confiance qu'autre chose. Et là-dessus, c'est le premier arrivé, premier servi. Maintenant, avec l'explosion de ce qu'on appelle tous les top-level domaines, c'est-à-dire .travel, .city, .paris, est-ce qu'il n'y a pas une inflation qui est complètement démentielle? Ça te sert le business, mais est-ce que d'un autre côté, ce n'est pas un danger?
Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je trouve que cette explosion de nombre de domaines, peut-être c'est un peu trop. On va voir comment ça sort. Nous, on ne donne qu'en demande des clients. Donc, si un client ne veut pas, nous, on ne met pas sur la liste dans notre nombre de domaines qu'on supporte. Mais en fait, vraiment, c'était un peu trop. Je ne suis pas sûr encore. On va voir. Mais C'est comme ça que ça marche. Ils ont décidé de sortir 1000, plus que 1000 noms de domaine TLD. Donc, c'est comme ça qu'on travaille maintenant.
Sur le mode de gestion en SWAT, il y a aussi un autre problème, c'est que certains top-level domaines demandent des papiers pour, par exemple, il faut être enregistré dans certains pays, il faut être une entreprise, il faut montrer qu'on a réellement la marque. Comment on peut encore faire simple ? On se dit, on fait l'impasse, ou bien il y a d'autres manières de faire ?
Mais le plus facile, c'est de trouver, si c'est possible, un nom de domaine dans les .com, les .org, .net, .fr. Ça dépend où, qu'est-ce que tu veux faire. Mais honnêtement, il faut mieux choisir un nom de domaine qui n'est pas une marque de les autres. Parce qu'en fait, n'importe où, quel domaine on choisit, si on utilise une marque de quelqu'un d'autre, ça va être un problème. Éventuellement, l'autre compagnie va venir, ils vont expliquer que c'est notre marque. Et en fait, ICANN, c'est l'organisation qui suivra tous les nouveaux TLD. Ils ont toujours les règles pour réparer ces problèmes, en fait. Donc, il y a un système exprès pour si quelqu'un utilise un nom de domaine qui est un trademark, ils vont surtout l'enlever, celui-là qui a acheté.
Et ce que l'on voit aussi, c'est que des fois, on voit des noms de domaines qui sont réservés. On voit des vrais parkings. Donc, en fait, des noms de domaines qui sont là et on dit « Ah, mais il est à la vente, il a 10 000, 15 000 dollars, 20 000 dollars. » C'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 90. Est-ce que, franchement, ce système-là est encore rentable ? Est-ce qu'il y a encore des gogos pour acheter des noms de domaine à ce prix-là ?
Non, moi, je crois que non. Déjà, Google, ils ont pénalisé tous ces sites. Et donc, honnêtement, ce n'est pas très intéressant aujourd'hui d'avoir les sites qui sont dans le parking. Mais c'est plus intéressant d'avoir un site qui a un nom de domaine, c'est intéressant. Et après, utiliser pour construire un projet. Le projet, c'est plus important maintenant que le nom de domaine tout seul. Donc, c'est ça.
J'avais une question sur le remote working. Est-ce que vous ne souffrez pas, en fait, de la distance avec vos salariés ? Et comment vous faites pour garder le lien ? Parce que l'humain, c'est hyper important dans une boîte. Garder le lien avec vos équipes.
La première chose qu'on fait, c'est tous les jours, on communique avec les systèmes comme Slack et les choses comme ça. C'est utile, c'est les logiciels sur Internet et toujours on a les communications avec ça. La deuxième chose qu'on fait, c'est trois fois chaque année, on a un rendez-vous avec toute l'équipe ensemble dans un endroit. Par exemple, dans le mois de décembre, on était à Madrid. Dans le mois d'avril, on était à Chicago. Et on passe une semaine ensemble pour travailler sur la stratégie et aussi pour travailler ensemble pour avoir un rapport avec l'autre équipe. C'est sûr, c'est difficile, mais c'est pareil, difficile dans une boîte aussi, dans un bureau. Il faut toujours avoir un esprit de travailler ensemble et de toujours parler avec les autres. C'est ça, en fait.
Quand on travaille, du coup, sur plusieurs fuseaux horaires, quel est l'avantage ? Le développeur qui bosse que la nuit, qui est synchrone avec celui qui est de l'autre bout de la Terre, et donc on ne va plus essayer de recruter dans ces créneaux horaires-là ?
Donc en fait, nous, on ne travaille pas comme ça. Nous, on travaille quand on veut. Et donc, on travaille seulement avec, comment on dit, asynchronous. Donc, par exemple, j'ai des équipes aux États-Unis. Ils vont travailler pendant la journée, même quand on dort. Et quand nous, on arrive, on parle de ce qui se passe avec vous, qu'est-ce que vous avez fait. Et tout est asynchronous. Donc, honnêtement, ça marche très bien pour nous. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on est tous les développeurs. Donc, on a déjà l'habitude de travailler sur les projets en remote.
Alors, question télétravail. Est-ce que des fois, ça t'arrive de faire des Skype avec les clients en Marcel, un chat sur les genoux et un verre de vin sur le côté, un petit peu hors champ de la webcam ?
J'ai pas trop compris les questions, mais oui, de temps en temps, j'ai un verre à côté de moi de parler avec l'équipe et les clients, et c'est comme ça. Mais honnêtement, pour moi, ça, c'est un but d'avoir une équipe complètement remote, parce que moi, je veux vivre. Je veux vraiment vivre, même si j'ai une entreprise, ce n'est pas une raison de passer toute ma vie avec l'entreprise. Je préfère avoir le temps que moi, je veux faire des choses. Par exemple, venir ici, passer un jour à Toulouse, je peux le faire. Mais si j'ai un travail où il faut tous les jours aller au bureau, c'est vraiment difficile à faire les choses comme ça. Et ça, c'est pas vivre, hein, pour moi.
Alors du coup, question purement organisationnelle, pour que chacun avance dans le travail d'une manière commune, est-ce que vous avez choisi une méthode de travail? Est-ce que vous êtes plutôt Scrum? Est-ce que vous êtes plutôt Kanban? Ou est-ce que c'est, disons pour le 17 du mois prochain?
Nous, on a vraiment la chance parce qu'on n'a pas besoin de faire les choses à une date exprès. Parce qu'on travaille pour nos clients, donc ça, c'est tous nos customers et tout ça, et on travaille pour nous-mêmes. Donc en fait, on travaille un peu comme ça. On dit qu'on a des gros projets qu'on va faire dans 3 mois. Et donc nous, on s'est organisé. Oh purée, ça c'est difficile. On le fait nous-mêmes. Donc on ne fait pas Kanban, vraiment. On ne fait pas Scrum. On travaille avec les listes choses à faire. Et on a des gros projets. On travaille ensemble d'arriver à ce point avec ces gros projets, de sortir pour le company, c'est tout.
Purée, c'est pas mal, mais dans la région, on dit « Oh, putain
hey. !» J'essaie de ne pas dire ça sur la radio, c'est tout. Hein.
On mettra des bips au cas où. Accessoirement, quand tu vois justement la différence de progression, par exemple, de certaines nouvelles technologies qui permettraient d'avoir encore plus d'ordinateurs associés, donc peut-être d'avoir plus de nouveaux clients, comme l'IPv6, quand on voit aussi les besoins sur le fait de chiffrer simplement les données, donc en HTTPS, est-ce que tu te dis j'ai besoin d'aider mes clients à évoluer, à avancer avec eux, ou non, je me cantonne juste à ce que je sais faire et j'essaie de bien le faire?
Non, pour nous, c'était toujours très important d'avoir l'innovation et d'aider nos clients. En fait, c'est pour ça qu'on a des clients qui restent avec nous, parce qu'ils savent très bien que nous, on travaille pour eux. On avance pour eux, donc ça c'est le but en fait. Si on arrête de faire ça, ils vont chercher ailleurs un autre provider de DNS et des noms de domaine, c'est sûr.
Et pour retenir le client, quel est le meilleur moyen? Avoir un service de qualité mais à un certain prix, ou faire comme one-on-one, c'est-à-dire rentrer à une espèce de captcha qui est impossible à rentrer pour pouvoir débloquer son domaine pour aller chez quelqu'un d'autre, au hasard Gandhi, OVH, un truc comme ça?
Non, en fait c'est très facile. Il y a un lien, ça s'appelle Transfer Out. Ça veut dire, tu veux plus utiliser notre système. Appuie, et voilà. Non, on ne bloque pas pour l'entrée, on ne bloque pas pour sortir. Parce qu'on dit, si quelqu'un veut trouver un autre provider, c'est pas que nous, c'est parce que nous, on a fait quelque chose de mal. Donc, il faut qu'on... Peut-être c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de différent. On ne veut pas les bloquer. Ça, c'est pas le... Parce qu'ils vont toujours sortir. Et en plus, enfin, ils vont dire, jamais je retourne à cette compagnie. Et moi, je préfère s'ils laissent toujours la porte ouverte. Si quelqu'un part, ça va. Mais peut-être qu'ils vont revenir plus tard parce que c'est une compagnie avec qui j'ai utilisé. Et eux, ils sachent que c'est important d'avoir les clients et de traiter leurs clients bien.
Donc du coup, point de vue organisation, combien il y en a qui sont dédiés à la technique et combien qui sont dédiés à l'accompagnement clientèle, donc au helpdesk dans ton entreprise?
J'ai pas trop compris.
Combien tu as de techos? Combien tu as de techniciens?
D'accord.
Combien tu en as sur le helpdesk?
On est tous techniciens. En fait, on est tous des programmeurs. On fait tous le helpdesk. En fait, même moi... Même toute l'équipe, on fait toujours le support les clients. Et on fait ça exprès, qu'on comprend bien les problèmes que nos clients ils ont. Parce que si on dit, bon, ici, on a des help desk et c'est leur responsabilité, on ne va pas vraiment comprendre qu'il y a un problème. Donc, pour nous, les développeurs, c'est très important de comprendre. Donc, tous les développeurs, ils font le support. Tous les développeurs, on est responsable pour les systèmes de production. Donc, en fait, tout le monde, ils ont les clés de le château. Et tout le monde peut rentrer et sortir quand il veut. Donc, c'est très important d'avoir une équipe en qui on a la confiance.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, quand même, c'est assez couillu. Peut-être, dernière question. Tu parles très bien français. Je suis surpris que tu n'aies pas fait ta conf en français pour le coup. Est-ce que maîtriser une autre langue, ça t'a fait voir d'autres problématiques vis-à-vis de ta clientèle?
Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si on a eu la chance encore d'utiliser les autres langages comme le français et l'allemand, de vraiment donner nos clients l'opportunité d'utiliser notre logiciel dans leur langage. Je veux bien, mais honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je cherche toujours les problèmes. C'est sûr qu'en France, c'est différent qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, qu'en Chine. Et on comprend bien, mais aussi on sait qu'on peut faire, avec une équipe de 7 personnes, on peut faire que qu'on peut faire avec les gens qu'on a. Donc, dès qu'on grandisse un petit peu le plus, parce que c'est le but, j'espère que je peux faire encore des autres choses, exprès pour la France, exprès pour les autres pays dans tout le monde. Parce que honnêtement, c'est pas juste qu'on fait tout en anglais, c'est presque que pour les Américains et les Anglais. Il faut mieux si on peut offrir tout en plusieurs langages. Mais vraiment, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et merci pour le compliment. Moi, je trouve que je parle pas très bien et c'est pour ça que j'ai parlé en anglais, mais ça m'a fait un peu de confiance que je peux continuer d'évoluer un petit peu. Il est quand même pas mal.
J'avais justement une question. Tu participais au Failcon. Je voulais savoir ta réflexion par rapport à l'échec. Tu as déjà, j'imagine, dû être confronté à certains échecs. Comment tu vois ça?
Mais pour moi, j'ai jamais de problème d'avoir les échecs, en fait. Et c'est vrai que comme j'ai dit dans mon présentation, ça arrive à tout le monde. Parce que la différence, c'est comment on réagit à ces échecs, c'est ça. Et moi, j'ai décidé, avant c'était difficile parce que je n'ai pas bien compris que ce n'était pas la fin du monde. J'ai pensé, oh purée, c'est la fin du monde, c'est fini. Mais après, on réalise que ce n'est pas la fin du monde. En fait, on sort de tout, il faut avoir la patience et il faut réfléchis et reste logique. Et ça m'a aidé beaucoup. Donc, et j'ai trouvé la conférence, c'était honnêtement super. Tous les présentateurs, c'était vraiment bien fait. J'espère qu'ils vont faire encore l'année prochaine et je reviens, c'est sûr.
En sponsor?
Peut-être, on va voir. Non, j'ai pas de problème. Moi, je peux mettre le nom de DN Simple avec Faircon sans problème. C'est juste une question d'argent.
Anthony Eden, merci beaucoup.
Bon, merci à vous. Merci.
Anthony Eden.
CPU sur Radio Éphémère. Vous écoutez Étienne de Crécy, No Name, extrait de l'album Tempovision, sorti en 2000. Au moment où les registres DNS furent mis en place, l'obtention d'un nom de domaine était une formalité gratuite. Puis les noms de domaine devinrent une forme de location obtenue par des services de registrar contre le paiement d'un bail annuel. Mais nous restions dans la règle du premier arrivé, premier servi. Gary Creman réserva en mai 1994 le nom de domaine sex.com. Se disons qu'un nom aussi court, quasi universel et très sulfureux, ferait sûrement un bon investissement dans le futur. Bah oui, gratuitement. Mais dans l'immédiat, notre entrepreneur est plus préoccupé à développer son service de rencontre Match.com. Pour rappel, en 1994, le navigateur Netscape 2 sort à peine. Mais il se trouve que ce nom est vraiment trop attirant pour ne pas l'exploiter. Ainsi, Stephen M. Curran, qui a été maintes fois convaincu d'escroquerie à l'identité, de vol, donc deux peines de prison, la dernière qu'il terminait de purger en début 95, se dit qu'il pourrait se réinsérer dans la société. L'audacieux décida de tenter d'attraper le train d'Internet sans payer de billets. Monsieur Cohen passa plusieurs coups de fil et envoya plusieurs lettres au registrar de tous les noms en .com Network Solutions. Il tentait de se faire passer pour le représentant légitime du possesseur de sexe.com. Une arnaque classique en brute force, sans même utiliser d'email, puisqu'il n'avait pas d'abonnement à Internet. Et ça, on l'a par la suite dans les attendus. Un jour d'octobre de 1995, le registrar Network Solutions reçut un fax. Un fax. Un simple fax. Qui ordonnait de changer le propriétaire, le dit nom de domaine. L'employé de Network Solutions, qui lut le fax, ben... il s'exécuta sans plus de vérification, comme le voulaient les consignes intérieures de l'entreprise, et transféra le nom de domaine sexe.com de M. Kremen à M. Cohen.
Plantage.
Une fois de plus, pep-cac, le problème est entre la chaise et le clavier. L'humain s'est révélé être la faille de sécurité la plus facile à exploiter. L'affaire révéla que les procédures de vérification d'identité de Network Solutions n'étaient pas très solides, voire même totalement inexistantes. Par là même, cette erreur manifeste mit un très sérieux doute pour tous ses clients qui louaient un nom de domaine en .com ou en .net. Mais surtout, la désinvolture de l'opérateur choqua. Quand Kremen s'aperçut du transfert imbu avant même son premier coitus interruptus, il demanda à Network Solutions de restaurer sa propriété sur le titre en opérant l'opération logique inverse. Network Solutions haussa des épaules et lui répondit que le mieux serait d'aller au tribunal sans aucun embarras ou excuse. Ben voyons. C'est ce que fit Kremen, of course. Le mot « sexe » était déjà sulfureux dans la très puritaine américaine. Amérique, pardon. Le nom de domaine « sexe.com » devient un feuilleton qui ébranla, le secteur économique naissant des sites web avec un viol manifeste d'une propriété intellectuelle. Virtuelle. Tout est dans la tête, dans le cul. On le sait. Dans la pornographie, pardon. Pénétrant sans préliminaire et façon gonzo le secteur fort du nom de domaine, Stephen Cohen fit une belle fortune. Un chiffre d'affaires estimé à 100 millions de dollars sur l'année 98, facturant 1 million de dollars mensuel la présence d'une bannière sur ses pages et les services de nude à ce service vendus 25 dollars par mois à 9 millions d'onanistes baveux connectés. Quand il dut s'expliquer sa manœuvre et surtout de quel droit il avait à sucrer ce nom, le Margoulin s'expliquait que dans les années 80, il gérait le BBS French Connection, un serveur télématique de discussion qui fut accusé d'être lié à des activités de proxénétisme, mais dont l'exécutable côté serveur s'appelait sex.com. À l'époque, dans le monde MS-DOS et CPM, la plupart des exécutables se terminaient en .com. Si une telle défense avait abouti, n'importe qui aurait pu revendiquer n'importe quel nom de domaine en 8 lettres ou moins s'il était en .com. Cohen perdra le procès, il fut condamné d'ailleurs à 65 millions de dollars de dommages et intérêts. Le filou convaincu organisa une faillite frauduleuse, vidant ses comptes vers des banques au-delà du Pecos et s'envolera pour Tijuana sans payer l'amende au nez à la barbe de la justice. Inutile de dire que le ministère public a assez peu apprécié que le condamné joue la fille de l'air avec sa fortune et envoya les US Marshall à ses trousses. Bah oui. Son exil au Mexique ne l'empêchera pas de se retrouver en prison pour immigration clandestine. Oui, ça marche aussi dans l'autre sens entre les États-Unis et le Mexique. Et d'où il fut extradé aux États-Unis. À ce jour, il n'a toujours pas payé son dû, étant déclaré en faillite. Dans un autre procès intenté par Kremen, Network Solutions fut bien reconnu comme en partie responsable, mais sans aucune pénalité à payer, car il n'y a eu aucune transaction financière et donc aucun contrat de signé entre Gary Kremen et le registrar. Et oui, rappelez-vous, Kremen a obtenu gratuitement son nom de domaine, chou blanc, mais au moins il récupéra le contrôle sur sexe.com. Dès qu'il récupéra le contrôle du nom de domaine, Kremen comprit qu'il ne fallait pas le laisser dormir et donc ouvrit une page web uniquement peuplée de publicités qui s'avéra rentable malgré l'explosion de la bulle spéculative d'Internet en 2001. Il revendit pour 13 millions de dollars à Esco LLC, ce qui reste à ce jour l'une des 5 transactions les plus chères du mercato des noms de domaine. Sex.com fut un bon coup, le genre a ébranlé l'ensemble de l'immeuble. Depuis, des protections minimales furent mises en place pour éviter un transfert de nom de domaine entre registrars si le locataire ne le désire pas, et un procédé par un numéro de dossier jetable fut mis en place pour éviter qu'un simple fax ou email permette ce genre de cafouillage. In the Name of Love par Bang Gang. Je sais pas pourquoi j'ai choisi exactement ce groupe pour cette reprise. J'avais dit pourtant que je serais sérieux jusqu'au bout et tout ça. La preuve, la rubrique suivante sera exclusivement en vert et contre tous.
La météo d'Internet.
Ceci est le bulletin météo des domaines, sujet inépuisable, car ça c'est une aubaine. Tant pour le chroniqueur que pour le webmaster, il y a toujours du nouveau, on ne peut pas se taire. Au début, c'était quand même pas un souffle de vent sous arpent, on avait un com et un point net, un org, un EDU, un 1000, de temps en temps, tout IP était là et reliait la planète. Bien sûr, il y a eu comme des insatisfaits. Je veux mon IBM et pourquoi pas mon HP. La guerre des TLD fut très vite arrêtée, car Liana a de suite su imposer la paix. Et puis, pour contenter les esprits cocardiers, il a fallu ajouter les CCTLD en s'étant reculé que l'INRIA légifère, il coûtait 3000 francs le moindre point FR. Cotisation, AFU, dîme de registrat et paiement au volume, ça coûtait des milliards. Le spam en ce temps-là n'existait pas du tout. Envoyer une image, il fallait être fou. Pourtant, la douceur même de cet anticyclone, ce calme apollinien qui régnait sur nos clones, sous DOS ou sous Xenix, sombre dans le chaos, Internet s'ouvrait. Tranquillité, ciao. Non, Rec, Store, Web, Art, Firme et Info, l'Adoc Committee nous invente ces noms. Ça ne s'arrête plus, il en faut de nouveaux. Aero, Biz et Cop s'ajoutent à Name et Pro. Et puisque l'Internet, c'est, dit-on, des tuyaux, pour faire passer des chats dans les trams Umpreto, on crée bien le Point 4, le Jobs et puis l'Asia. Le Mobi et le Tel, c'est une fantasia. La dernière bouffée est enflée à foison, tempête de suffixes, pluie de propositions. Il y a le Book, le Cloud, le Car, Canal+, Strasbourg veut son Alsace et Toulouse son Airbus. Prince, si vous acceptez les mails d'un point banque, ne vous étonnez pas de voir tous vos deniers comme partir en fumée. Il faudrait être branque pour croire que le phishing ne va pas s'ingénier à vous berner tantôt. Remerciez-en Liana, qui comme Citruan pense à son bénéfice et multiplie pour son artisanat tout en se moquant bien qu'Internet en pâtisse. Je remercie le service prévision, là, il était hardcore celui-là. C'était CPU, le programme carré petit utile pour cette release. Eh ben, l'équipe était constituée de Dustcrit, chef domain officer, Solarus, chef routing officer, Marc Olanier, chef register officer, Eugène Laune, chef numering officer, Myriam Chav, chef naming officer. La release a été shippée avec les moyens techniques d'Equito, de Booster FM et de Radio FMR. Et merci au public présent, là on est un petit peu serré. Pas trop fort, ça résonne. L'intégralité des programmes, des extraits et des sources sont disponibles sur le site. Allez sur cpu.pm, qui me coûte 12€ par an à animer, alors quand même, allez-y. Enfin, le nom de domaine, hein, je parle pas de hébergement et tout ça, ça sera peut-être une autre émission. Et n'oubliez pas, vous pouvez commenter et partager. Donc commenter, ça nous fait du bien, ça fait résumer et tout. Et ce serait super. Prochaine release, l'English au travail. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h au 11 o'clock in the morning. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique en première diffusion, il est presque midi présentement. Nous cédons donc à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.